À Voigny. Cette semaine, Guillaume Erner rencontre Philippe Val. Ce soir, un duo de chansonniers, Fon et Val.
Philippe Val, bonsoir. Nous avons évoqué avec vous votre jeunesse, une jeunesse un peu triste, un peu solitaire. Et puis, on vous avait quitté en mai 68, un événement important pour votre éducation sexuelle et politique auquel vous aviez participé de loin. Votre formation, lorsque vous avez passé le bac, qu'avez-vous fait lorsque vous étiez donc dans cet environnement parisien ?
Triste, oui, non. Enfin, par moments, elle n'était pas triste parce que j'ai vraiment, avec mes camarades, à partir du secondaire, si vous voulez, je me suis socialisé quand même. J'avais des amis, enfin pas beaucoup, mais des amis choisis, des amis pour bavarder plus que pour jouer au foot. Après les années de, je voulais faire de la philo, donc mon prof de philo en terminale était très intéressant. J'ai lâché les mathématiques qui m'intéressaient, puis après ça m'a, j'avais plus le temps parce que la littérature m'intéressait trop et la philo aussi, donc ça a été au détriment des maths que j'ai laissé tomber. Carrément. J'ai dit, bon, je peux pas tout faire. Bon. Et puis, comme l'ambiance à la maison était quand même pas extraordinaire, bien que mes parents aient entre-temps, pas ma mère, mais mon père et ma belle-mère, réussi socialement, ils étaient devenus des industriels de la viande, qui gagnaient de l'argent et qui avaient une vie de bourgeois. Nous, non. Les enfants, on était un peu pas à la dure, mais pas à la molle non plus. Et donc, tout le monde est parti très vite. On s'est tous barrés à toute vitesse. On n'a pas fait d'études.
Vous êtes parti à quel âge ?
17, 18 ans.
Comment ?
Alors, voilà. Pendant mon adolescence, ce qu'on aimait, on aimait la littérature, on aimait certains philosophes, mais on aimait aussi le musical. Et on aimait les chanteurs, les chanteuses. Passionnément. Moi, j'allais à Bobino, qui était pas très loin de chez moi. Bobino, c'est le 14e, j'habitais le 15e. Et j'y voyais mes vedettes préférées. J'y allais tellement qu'on m'y laissait rentrer gratuitement, parce que j'étais un enfant du quartier. Puis un promenoir, c'était 7 francs. Donc des fois, je payais 7 francs, mais ça me permettait d'aller m'asseoir à l'orchestre quand il y avait de la place. Puis sinon, si j'avais pas 7 francs, ils me disaient, allez, rentre. Donc je voyais Brassens, je voyais Fernand Reynaud, je voyais Léo Ferré, évidemment, Félix Leclerc, enfin, Brel. Donc, tous ces gens étaient tellement formidables, tellement... Ils faisaient quelque chose sur scène qui était tellement fort. C'est comme si le reste du temps, on était dans un rêve. Mais quand on était dans cette putain de salle de spectacle, tout d'un coup, c'était le réel qui arrivait et qui nous faisait jouir. On sortait d'un rêve douloureux pour rentrer dans une vie de jouissance quand on rentrait dans ce théâtre. Et c'était vraiment magnifique. J'ai vécu des moments d'une intensité inouïe, assis dans le noir, à regarder chanter des gens. J'avais une passion pour ces gens.
Qui, Philippe Val ?
Presque tout. Enfin, je les aimais déjà parce qu'ils étaient des artistes. J'ai gardé au fond de moi intact cet amour des artistes. Je les aime. Même les mauvais artistes, je rends grâce, parce que s'il n'y avait pas de mauvais artistes, il n'y aurait pas de bons artistes. Je rends grâce qu'il y ait cette race de dingue. Je crois que, sans me vanter, je ne sais pas si je suis bon ou mauvais, mais j'en fais partie. Je voulais être que ça. Je voulais être un artiste. Je voulais être rien d'autre. C'était pour moi la seule façon de poser le pied sur le sol, d'être dans la réalité, paradoxalement.
Vous citez des chanteurs, des chanteuses, Philippe Val ?
Oui, bien sûr. J'ai même vécu avec une de ces chanteuses de ces années-là, Anne van der Lof, qui avait une voix tellement belle et très fascinante.
Quand avez-vous appris à jouer du piano, Philippe Val ?
Je sais pas, j'ai appris tout seul. Et j'ai appris la guitare d'abord, tout seul. Et j'ai pas mal travaillé, je suis devenu un guitariste. Pas un grand guitariste, mais je suis devenu un guitariste. Et ma mère avait voulu me payer des cours de guitare, mais mon père s'y est opposé d'une façon extrêmement brutale. Il lui a interdit de me donner de l'argent, les 30 balles que coûtaient les cours à l'époque, pour que je prenne des cours de musique. Enfin bref, ça a été un drame atroce, cette histoire de cours de guitare. Donc j'ai appris tout seul. C'était formidable. Et encore aujourd'hui, j'ai un plaisir inouï à chercher, ne serait-ce que 15 secondes de grâce sur un instrument de musique. C'est resté le but de ma vie, en fait, d'avoir ces quelques minutes d'enchantement, soit en écoutant de la musique, soit en faisant, soit en lisant un livre, soit en allant voir Giotto à la chapelle di Scrovegni, quoi.
Pour votre père, c'était, j'imagine, compliqué d'accepter que vous lanciez dans une carrière artistique.
C'était plus que compliqué. C'était redoutablement désagréable pour lui. Encore que, je pense que il se disait du moment qu'ils se barrent tous, le problème avec la jalousie de ma femme sera réglé. Donc il avait un peu hâte qu'on s'en aille, bien qu'il nous ait vraiment aimés, j'en suis sûr. Il avait hâte qu'on se barre parce que ça devait être lourd pour lui d'avoir ce souvenir de sa femme d'avant qui perturbait sa femme d'aujourd'hui. Donc, c'était un problème pour lui. D'où cette phrase qu'il m'a dite un jour, d'ailleurs, « Foudrage, lorsque j'ai refusé de faire mathélème ou science-ex, comme on disait à l'époque, pour faire philo, il m'a dit, tu finiras clochard comme ton Zola. » Je ne sais pas où il a vu que Zola était clochard, ce qui n'est pas loin d'être le cas, mais pour lui, tous les écrivains étaient un peu des clochards. Donc il me dit, voilà, tu finiras clochard comme ton Zola.
Mais à propos, lorsque vous vous êtes retrouvé seul à 18 ans, vous viviez de quoi, Philippe Val ?
Eh bien, dans un premier temps, j'ai couru les cabarets, le Lapin Agile, chez Georges, rue des Canettes. J'avais 16-17 ans, je m'enfuyais la nuit avec ma guitare sur le dos, je passais par les toits, j'escaladais pour pas qu'on en m'entende, et je poussais ma mobilette dans la cour, et je fonçais à Saint-Germain-des-Prés passer des auditions. Et donc, j'ai été pris plus ou moins, parce que j'étais pas un très bon chanteur, donc ils me prenaient mollement, mais m'ont un peu pris quand même, un peu d'engagement par-ci par-là. Et c'était la fin des cabarets, ils fermaient, tous fermaient, l'Écluse fermait, la Contrescarpe fermait, la Rose d'Or, tout ça, ça fermait. Et j'ai chanté un peu dans les cabarets survivants.
Vous chantiez quoi ?
Mes chansons, j'écrivais des chansons, je composais. J'écrivais depuis l'âge de 11 ans, je ne cessais d'écrire. Le modèle à l'époque, c'était un peu Brassens pour l'écriture des chansons. Il y avait Gainsbourg aussi, mais... Et Brel... J'avais un professeur de chant qui était formidable, qui s'appelait Jean Lumière, qui était une vedette des années 30, qui avait été le rival de Tino Rossi. Tino Rossi était un ténor populaire et lui était un ténor un peu plus distingué, qui avait des textes un peu plus littéraires. Mais c'était une très grosse vedette. Il était très très proche d'Yvette Guilbert. C'était un grand ami d'Yvette Guilbert. Et de Piaf aussi, il était très proche de Piaf. Et Jean m'a fait beaucoup travailler... Et surtout, il m'a fait engager au théâtre de 10 heures sur la rive droite. Et je chantais aussi au Lapin Agile, sur la butte. Je faisais parfois les deux. J'ai commencé en remplaçant Thierry Leluron. On avait le même âge, Thierry et moi. Et il faisait 3 semaines, il partait en tournée pendant 15 jours. Et pendant les 15 jours, il partait en tournée, je le remplaçais. Puis ensuite, il revenait. Et puis après, Thierry est devenu une telle vedette qu'ils m'ont engagé à plein temps. Il a foutu le camp du théâtre de 10 heures et... On écrivait pour Thierry, on écrivait les textes. Dans ce théâtre de 10 heures, j'ai rencontré Patrick Fonte, qui était un jeune chansonnier. Si on peut dire jeune chansonnier, c'est comme un clair-obscur. C'est oxymore, les chansonniers étaient vieux. Donc un jeune chansonnier, c'était quelqu'un de vieux déjà un peu. Pour moi, qui venais de la rive gauche, c'était des gens qui étaient en costume cravate sur une scène, qui disaient des blagues avec des jeux de mots. Mais Patrick avait ce déguisement-là, mais il avait un truc que les autres n'avaient pas. Il avait un talent. On sentait sous le conformisme, le carapace de conformisme que le théâtre exigeait que l'on ait. Il voulait qu'on soit en costume, la direction du théâtre, et tout ça, enfin bon.
Qu'est-ce que vous faisiez avec Fond ?
Je faisais rien avec Patrick à ce moment-là. Le fait que Thierry s'en aille, Patrick était l'auteur attitré de Thierry. Et le fait que Thierry parte me faisait, moi, arriver en levée, ce qu'on appelait en levée de torchon, c'est en levée de rideau, donc. Et Patrick, qui était le plus jeune après moi, il passait donc lui en deuxième du coup. Il montait en grade, c'était hiérarchique, c'était très très hiérarchique ces théâtres. Donc je passais, la présentatrice faisait ses petites blagues, et ensuite c'était à Patrick, et ensuite c'était un chansonnier plus connu, ensuite c'était à Anne-Marie Carrière, ensuite il y a un petit entracte, ensuite c'était à la vedette, qui pouvait être Robert Lamoureux, ou enfin bon bref. Donc voilà, j'ai chanté là, et on faisait rien, simplement Patrick était un homme très timide, il était marié à l'époque avec Minou Drouet, et donc voilà, je suis devenu ami avec ce couple parce que Patrick était très timide, mais en même temps très drôle. Il avait des chansons qui ressemblaient à ce qu'il fallait faire dans ce théâtre, mais qui au fond en débordaient, parce qu'il avait un humour vraiment formidable et une grande présence en scène. Que moi, j'avais des idées, j'avais de l'humour, mais moins bien calibré. Et puis surtout, j'avais pas du tout la même présence. J'étais bien plus maigrelet et inquiet de ce que je paraissais. Faut pas être inquiet de ce qu'on paraît quand on fait de la scène. Il faut, une fois qu'on est sur scène, il faut balancer le truc. Et j'avais pas ça. Moi, donc Patrick avait une très grosse présence que j'admirais beaucoup. Et petit à petit, on est devenus amis. Voilà. Parce qu'on était les deux plus jeunes dans un endroit qui était quand même, la moyenne d'âge des artistes était largement au-dessus de 50 ans, quand même.
Quand avez-vous décidé, Philippe Val, de monter des numéros avec Patrick?
Assez vite. On était voisins. Moi, j'habitais Cité-le-Mercier, il habitait rue des Moines.
On était à quelle année?
On était en
quelle année à l'époque?
C'était Jour tranquille à Clichy. Enfin, Clichy, pas Clichy la banlieue, mais le boulevard de Clichy. Donc, on hantait Pigalle et la place Clichy. On habitait là. On était à deux, trois rues l'un de l'autre. Il aimait passionnément sa femme. Moi, je connaissais très bien Minou, évidemment, mais quand il m'en parlait, j'avais l'impression qu'il me parlait de quelqu'un d'autre, parce que ça ressemblait pas du tout. Mais vous savez, c'est comme dans Proust, Odette et Swann. Hein. Donc, ce que pense Swann n'a rien à voir avec la réalité d'Odette. Mais c'était ça. C'était incroyable. Ça m'étonnait beaucoup. Moi-même, j'étais marié déjà. Parce que je me suis marié pour... Pourquoi? Parce que fallait...
Vous étiez marié avec qui?
Avec une jeune enseignante en anglais et un peu laotienne.
Et alors, ce mariage?
Disons que ça, c'était inutile. Enfin, voilà, ce mariage était...
C'était inutile, mais c'était douloureux?
Oui, bien sûr. Des gosses qui se déchirent parce qu'ils veulent plus être ensemble et qui s'aiment quand même, parce qu'on s'aime toujours quand même un peu... Donc ça a été difficile, oui. Mais autant j'ai eu beaucoup d'amis femmes, et j'ai toujours des amis femmes, et puis j'ai eu des relations amoureuses, bien sûr. Mais les relations amoureuses, elles croyaient que je les trompais avec d'autres femmes. C'était parfois vrai, hélas, j'en suis pas fier du tout, mais je les trompais, en fait... avec ce que je faisais, j'étais en quête de quelque chose, je cherchais quelque chose, je cherchais la grâce, je cherchais vraiment la grâce, tout le temps. Et quelqu'un qui cherche la grâce ne devrait pas se marier, il devrait faire que ça. Mais j'ai cru parfois que la grâce passait par l'amour, ce qui n'a rien à voir, enfin, passait par la relation amoureuse, qu'une femme allait m'apporter la grâce. Non, la grâce, elle ne s'apporte pas comme ça. C'est une liberté suprême qui vient du fond de soi, d'un combat intérieur, et puis en plus qui est pas gagné, et quand c'est là, ça s'en va, et quand ça s'en va, ça revient parfois, heureusement, mais...
Vous avez monté un duo qui est devenu extrêmement célèbre avec Patrick Font, Philippe Val.
Oui, et c'est drôle parce que je me suis posé beaucoup de questions. On était tellement inconscients, on a fait du théâtre, on avait une troupe de théâtre... Coluche nous avait refilé Le Vrai Chic Parisien quand il est parti, qu'il a fait plusieurs...
En quelle année ?
Semaines Bobineau, il y a 75 peut-être, quelque chose comme ça. On connaissait Coluche depuis ses tout débuts, puisqu'on était copains avec Lederman, et Lederman était l'impresario de Thierry, donc on était dans le même, dans la même mouvance. Et Coluche, même quand il était inconnu, enfin vraiment inconnu, j'ai vu Coluche, on était quatre dans la salle. Il y avait Patrick, une copine, Lederman et moi. Et il a fait le show. Hein. Et il était absolument incroyable, Coluche. Il était merveilleux. Il savait faire des choses sur scène qu'on savait pas faire. Enfin, si, Patrick, lui, il savait faire des choses comme ça. C'est le seul que j'ai connu qui avait les potentialités artistiques de Coluche, c'est Patrick. Mais il avait des... C'était quelqu'un qui avait un rapport au succès extrêmement tordu.
Pourquoi ?
C'était un personnage très compliqué. Et... dans les rencontres importantes que j'ai faites après, il y a eu quand Léo Ferré et son pianiste Paul Castagnier, qui était un pianiste mythique, se sont séparés. Paul Castagnier a voulu travailler avec Fonteval. Moi, j'adorais ce type. Et on est devenus amis intimes. Et en plus, on a collaboré pendant 15 ans, enfin, pratiquement jusqu'à sa mort. Et il me disait toujours, c'était un type d'une intelligence vraiment merveilleuse. Et il disait à Patrick, tu es un personnage de Dostoïevski. Tu es un personnage dostoïevskien, vraiment tordu, compliqué, contradictoire. Et Patrick était un personnage, effectivement, de Dostoïevski. Il était fasciné par des choses qu'il rebutait, il adorait des choses qu'il détestait. Il était très compliqué. Et dès qu'on avait du succès, il faisait tout pour qu'on n'en ait plus.
Par exemple ?
Il se mettait à mettre des choses très mauvaises dans le spectacle. Il annulait des dates. Il était très destructeur par moments.
Ça a marché combien de temps, Fond et Val ?
Ça a marché très longtemps parce qu'on a fait donc du théâtre. Enfin, il y a trois pièces qui ont vraiment bien marché.
Lesquelles ?
Alors, la première, enfin, bien marché à notre petit niveau de l'époque, mais on était des pionniers du Café Théâtre avec le Splendide, avec le Café de la Gare. On était les trois troupes les plus solides à Paris. Et on avait un public. La première s'appelait en ce temps-là Les gens mouraient. La deuxième s'appelait Saint-Jean-du-Larzac. La troisième, qui a eu vraiment beaucoup de succès, s'appelait La démocratie est avancée. Et après, moi, j'ai arrêté le théâtre parce que je supportais plus la troupe, je supportais plus personne, je supportais plus Patrick, c'était la fin des années 70. Et en marge du théâtre, on faisait des trucs tous les deux. On allait dans un petit café théâtre près de l'opéra. On aimait bien le patron. Le patron nous aimait beaucoup. Et il y avait trois programmes. Un à 20h, qui était une petite pièce d'Obaldia. Et puis, à 22h, c'était Fonteval. Et puis, à 24h, c'était un spectacle homosexuel avec deux garçons nus sur scène. C'était très étrange à l'époque. Et la scène était surélevée, elle était toute petite, la salle. Ce qui fait que les gens du premier rang avaient le sexe des mecs dans le nez, pratiquement. C'était étrange comme situation. Mais il y avait une ambiance, là aussi, très respectueuse, très marrante. Pleine de joie de vivre et d'humour, une ambiance de nuit comme on aime, comme les gens qui aiment la nuit. Voilà, nous on aimait la nuit et j'aime la nuit. Bon, tout ça était très sympa. Mais alors on avait dit au patron de cette boîte, on lui avait dit voilà, on veut bien passer pendant un an, parce qu'on commençait à avoir un petit nom, donc on était un peu demandé. À une condition, c'est qu'on met un titre de spectacle, mais on n'écrit pas le spectacle et on ne sait pas ce qu'on fera sur scène en arrivant le soir. Et pendant un an, on est arrivé dans cette boîte, dans ce petit théâtre, et on est monté sur scène sans savoir ce qu'on allait faire.
Mais alors, vous faisiez quoi ?
Alors, c'était compliqué, hein, je vous assure. Enfin, c'était pas simple certains soirs. C'était un challenge. On mettait des cendriers, deux chopes de bière, on se fumait, on buvait de la bière ou du whisky. Et on était assis et on commençait à discuter avec le public. C'était pas une très grande salle, donc on pouvait avoir un rapport comme ça de... On disait, bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on parle de quoi ? Et il nous disait un truc, alors on essayait un sketch. De temps en temps, on se rattrapait sur un bout de chanson qu'on était en train d'écrire. Mais on improvisait beaucoup, pendant une heure. On essayait d'improviser un spectacle tous les soirs. Tous les soirs. On a fait ça tous les soirs pendant des mois. Ce qui nous a donné une grande complicité de scène. Et surtout, quelque chose que les gens ont dû aimer, c'est que entre Patrick et moi... Je savais que Patrick était beaucoup plus doué que moi pour la scène, qu'il avait des qualités et d'auteur plus accomplies, et plus âgé, et de comédien aussi, meilleur comédien que moi. Après, j'ai fait des progrès, mais j'ai jamais réussi à être aussi bon que lui, mais j'ai fait beaucoup de progrès. Il a fallu que je travaille, mais moi j'ai lu Stanislavski, j'ai joué Jouvet, je me suis fait chier tout ça pour essayer de comprendre comment on faisait pour avoir du succès sur scène. Et j'ai fini par en avoir, mais c'était laborieux. Donc, il y avait quelque chose que les gens ont aimé entre nous. Pourquoi ça a si bien marché, Fontéval, et qu'on est devenu effectivement des vedettes? Ils aimaient quelque chose. Quand on était sur scène, Patrick et moi, il n'y avait aucune rivalité entre nous. C'est très rare chez les duettistes. L'un était heureux du succès de l'autre. Ce qui comptait, c'était le succès commun. Enfin, comment dire? Il n'y avait pas d'ego sur scène.
Pourquoi pas de carrière solo pour vous?
Parce que j'étais pas assez bon. Cette conversation, je l'ai eue avec Nougaro beaucoup. J'avais déjà pratiquement arrêté la scène. Et Nougaro me dit, tu sais, il lisait tout ce que j'écrivais. Et il me disait, tu sais, je viens pas te voir sur scène, je suis pas venu parce que j'avais peur que t'incarnes pas assez sur scène. Je lui dis, mais t'as eu raison de ne pas venir parce que t'as raison, j'incarnais pas assez.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que je ne savais pas me libérer du regard du public. Maintenant, je sais le faire. Enfin, je saurais le faire. Mais à l'époque, je ne savais pas le faire.
Quand vous avez appris pour Patrick Fon, Philippe Val, que celui-ci avait été accusé de pédophilie, qu'il a été donc en prison, votre réaction?
Alors, Patrick avait, comment dire, à la fin des années 70, on est loin encore de cette affaire, j'ai dit, et Patrick a voulu continuer le théâtre avec une troupe, mais je lui ai dit, vas-y, continue, mais sans moi, on faisait que le duo, donc on faisait plus que le duo, et le duo devenait de plus en plus vedette, et voilà. Mais lui, il a continué beaucoup le théâtre avec sa troupe, donc, et il débarquait des fois chez moi, j'habitais la Varenne-Saint-Hilaire, et avec cette troupe, j'ai dit à Patrick, c'est pas possible, tu te rends pas compte, c'est un capharnaüm maintenant. Enfin, c'est Attila quand il venait chez moi, c'était Attila quoi. Donc il y a eu un petit froid personnel entre Patrick et moi à ce moment-là, pas professionnel, mais personnel. Je lui ai dit, tu viens plus chez moi avec ces gens parce que ça me fait chier. Il débarquait n'importe quand, n'importe quelle heure de la nuit ou du jour. Et donc là, j'ai dit à fond, ça suffit. Et il est parti vivre sa vie, il a quitté Paris, il est parti vivre en Haute-Savoie. Et là, à partir de ce moment-là, il a une vie assez opaque pour moi, parce qu'il vivait à 600 km. Et on se retrouvait pour les concerts et assez peu, voire les derniers temps, pas du tout en dehors. Alors, quand j'ai appris l'histoire, je l'ai appris très vite.
L'accusation, c'est 1996.
Donc j'ai reçu un coup de fil d'une fille que je connaissais, qui était institutrice dans son école, et donc elle m'appelle, elle est terrifiée, elle me dit voilà ce qui se passe, il est accusé d'attouchement sur les enfants, parce que son rêve depuis très longtemps était de monter une école, et il l'avait fait depuis 2 ans, donc à cette époque-là, 96, il avait dû le faire en 94, je sais pas, il a dû monter son école, et donc ça a été catastrophique parce que, comme tous les gens qui ont cette sexualité, je pense qu'il a résisté longtemps, parce que moi je l'ai connu vraiment très très amoureux. Donc je pense qu'il n'y avait pas de place là-dedans pour qu'elle. Par contre, il faisait beaucoup de blagues là-dessus. Il faisait énormément de blagues qui visaient sans doute à nous faire croire que c'était de l'ordre de la blague chez lui et qu'il était incapable de toucher à un enfant. C'était de la provocation, comme on faisait de la provocation en humour sur tout et n'importe quoi. Et la pédophilie à l'époque, je dirais pas que c'était à la mode, mais c'était, il y avait des gens qui faisaient des articles dans les journaux pour défendre la pédophilie, quoi. Enfin, dans Libé, enfin, c'était une période étrange pour ça. Et quand c'est arrivé là, plus tard, dans les années 90, quand Patrick s'est fait arrêter, l'équipe, enfin, c'est-à-dire régisseurs, les musiciens, on était tellement tristes et choqués et en colère. Enfin, on était dans une rage contre Patrick, on était fous de colère et de chagrin aussi, mais enfin, voilà, ça a été violent, quoi. Alors pour moi, personnellement, ça a été très pénible parce que Fontéval était vedette. Bien souvent, les gens ne savaient pas qui était Fonte, qui était Val. Alors, pour moi, ça a été un choc de voir que mes livres ont été retirés de la vente, des émissions. que je devais faire sur Canal ou ont été annulés. Je me suis fait virer de France Inter. Je travaillais à France Inter. Alors que moi, je savais, enfin, ça me tombait dessus comme la foudre. Enfin, c'était absurde. Donc, pour moi, ça a été super difficile cette période parce que je me suis senti sali. Vous savez, comme les enfants qui se sentent vachement coupables, mais il y a des rêves comme ça. On est condamné à mort ou on est enfermé dans une prison ou alors on est poursuivi par des gens parce qu'on a commis une faute, on est accusé d'une faute, mais on ne sait pas laquelle.
Vous en avez parlé avec lui, avec Patrick Font, Philippe Val?
Oui. Oui, bien sûr. Quand il est sorti de prison, oui. J'en ai parlé avec lui. On s'est vu une fois ou deux, on s'est pas beaucoup vu. On avait des vies très différentes, très séparées, et puis c'était cassé depuis bien longtemps. On travaillait plus ensemble quand c'est arrivé. On travaillait plus ensemble depuis 2 ans. Et on se fréquentait pas.
Qu'est-ce qu'il vous a dit?
Il m'a écrit, en fait, une longue lettre, assez étrange de la part de Patrick, parce que Patrick avait toujours raison. Il faisait partie de ces gens très obsédés par l'idée d'avoir raison tout le temps, que sa liberté était la base de la morale, que ça se discutait pas. Donc c'était très difficile de discuter avec lui. Et il m'a écrit une longue lettre, après être sorti de prison, me disant une chose très étrange, me disant « Les plus beaux jours de ma vie, je les ai vécus dans le duo avec toi. J'ai été con. » Alors qu'il dise ça, c'est vraiment très étonnant, parce qu'il n'a pas été... C'est pas le genre. C'était très émouvant. J'ai fait des choses inqualifiables. Et aussi... j'ai fait souffrir des gens, et puis j'ai gâché ma vie artistique, alors que t'as tout fait pour essayer de sauver ma vie artistique. Et c'est vrai, j'ai servi de garde-fou pendant longtemps. Je pense que j'ai été un surmoi pour Patrick. Et j'aurais dû t'écouter, on aurait été des stars, t'as été formidable pour moi. Enfin, une lettre de gratitude qui m'a beaucoup étonné, qui m'a laissé presque sans réponse, parce que c'était tellement stupéfiant de la part de Patrick. Ça m'a touché, bien sûr. Mais on en a tellement bavé, pas que moi, mais l'entourage de Fontéval, de cette histoire. Ça a tellement été violent. Parce que nous, les artistes, enfin, voilà, on vit de notre renommée. Et quand la renommée est entachée très brutalement, très violemment comme ça, on vit de quoi? On n'existe plus, on n'a plus qu'à mourir. Donc c'était une période difficile.
Merci beaucoup Philippe Val, à demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Guillaume Erner avec Philippe Val. À voix nue, réalisation Lionel Quentin, prise de son Marie Le Peintre, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.